Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Salah et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Elle est un relais entre le ciel et la terre à travers ses analyses qu'elle propose dans le bulletin des étoiles, gardienne et protectrice du féminin sacré par la création de l'école des sorcières. Luciana Calvetti se décrit comme une femme sauvage. Elle nous accompagne dans notre processus d'évolution en nous donnant les clés pour nous relier à notre instinct naturel et spontané. Merci Luciana d'être parmi nous aujourd'hui.
Merci beaucoup à toi Manon, merci pour cette belle introduction, j'ai adoré.
Avec plaisir, elle est venue très naturellement en suivant tes publications et ton travail. La première question que je me pose et que je souhaite introduire, je me demandais quand est-ce que tu as ressenti cette nécessité de te relier à ton féminin et notamment le féminin sacré.
Alors, je pense que c'est venu par plusieurs étapes, mais j'ai ressenti ce besoin à un moment très, très particulier de ma vie. C'était peut-être, j'essaie de me rappeler, en 2015. où c'était très lié à ma relation de couple du moment, où je sentais qu'il y avait voilà, plein de choses qui ne marchaient pas, où je me retrouvais voilà, dans des schémas, dans des sortes d'anxiété ou des difficultés à gérer les liens avec l'autre. Et j'ai eu besoin de marquer une pause avec cette personne et j'ai senti là que j'avais un monde à explorer que je n'étais pas en train d'explorer et qui était mon monde émotionnel tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent en premier pour beaucoup de femmes dans la reconnexion féminine, de déjà se rendre compte et apprivoiser ses émotions, d'aller vraiment regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est en train de nous traverser et nous reconnecter à des parties de nous qui ont été oubliées souvent. Donc d'abord c'était une connexion émotionnelle, mais petit à petit en allant dans cette connexion émotionnelle, j'ai retrouvé en fait des trésors et je me suis reconnectée aussi à mon âme, on va dire plus d'artiste d'une certaine façon, à ma créativité, à la poésie que j'ai aussi à l'intérieur de moi. Et je me disais c'est fou parce que j'ai tout ça à l'intérieur de moi, je le sens. À ce moment où j'avais pris cette pause, j'ai vraiment pris le temps d'écrire ce que je ressentais, de faire un peu voilà, un travail de bilan sur ma vie et de voyager aussi. Et je sentais tellement de vie à l'intérieur de moi, tu vois, tellement de choses qui voulaient sortir. Je me disais comment j'ai pu construire une vie entière où cette partie de moi, elle n'avait aucune place. Parce que c'était la réalité, à cette époque-là, je travaillais, voilà, j'avais des journées hyper chargées dans le monde du conseil, donc avec beaucoup d'ambitions professionnelles et compagnie, j'étais beaucoup plus du coup branchée à mon masculin et en train d'avoir une vie très voilà, proactive et très dans la projection de mon énergie et pas beaucoup dans l'intériorisation. Et là, je me suis dit, waouh, toute cette partie-là, elle est là et pourtant, elle n'a aucune place dans ma vie. Et c'est là où j'ai compris que c'était de l'énergie féminine et que cette énergie féminine, elle avait la chose la plus importante qui soit, qui est la vie en fait. La vie, la fertilité, j'ai souvent comparé ça et d'ailleurs dans les livres Femmes qui courent avec les loups, c'est souvent décrit comme ça. C'est vraiment ce terrain fertile en fait qui est humide. Je crois qu'elle parle des racines boueuses de la femme, tu vois, il y a vraiment cette idée du désert quand on est dans certaines énergies masculines ou quand on n'est pas connecté à l'énergie féminine, une sécheresse et après une humidité dans l'énergie féminine. Et je pense que c'est ça que j'ai retrouvé en me connectant à mes émotions, mais aussi en me connectant à ma spiritualité, en me connectant à ma partie créative, J'ai retrouvé de la fertilité pour ma vie, en fait. Une source d'eau, une source de créativité, une source d'imagination, de poésie, de vie, enfin, de plein de choses. Et ce processus-là, qui a commencé avec une grosse remise en question en 2015, ça s'est suivi à peu près ensuite tous les ans, où à chaque fois, je pense, je suis allée de plus en plus en profondeur sur cette énergie-là, jusqu'à, je pense, en 2019, j'ai eu un autre moment de connexion très, très, très fort qui est passé plus par la nature, où je me suis isolée dans la jungle pendant 3 semaines. Et j'ai vécu une expérience incroyable, de solitude et en même temps de connexion à la nature que j'avais jamais ressentie auparavant. Et du coup, toute cette énergie féminine et cette énergie aussi de la terre a été profondément nourrie. Et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé à m'appeler, me surnommer toute seule femme sauvage, parce que c'est à ce moment-là où j'ai retrouvé, je pense, ma femme sauvage. C'est à ce moment-là où j'ai compris qu'est-ce que voulait dire la femme sauvage, qui d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller dans la jungle pour la retrouver. Elle est à nous, elle habite à nous, et ça, c'est quelque chose que je sens depuis toujours. Mais c'est à ce moment-là où j'ai su que je l'avais vraiment retrouvée et que cette femme sauvage habitait en moi. Tu vois, quand j'ai vu comment naturellement mon corps et toutes ma physiologie s'adaptait à la nature, s'aligner avec les cycles de la nature et comment je commençais à interagir avec la nature. Et là, je me suis dit, en fait, ça a toujours été en moi et c'est toujours en nous, en fait. C'est juste qu'on l'a oublié.
D'accord. D'accord. Donc oui, c'était vraiment un voyage initiatique à l'intérieur de toi-même et une reconnexion profonde. Et justement, donc on est pour la plupart d'entre nous, on n'est pas dans la jungle et c'est difficile peut-être de se relier à la nature. Et comment se relier à notre instinct, à notre intuition en étant dans un lieu urbain et se reconnecter à nos cycles aussi?
C'est une très très bonne question. Comme ça l'a été pour moi, je pense que déjà la connexion émotionnelle, c'est quelque chose que on a beau être n'importe où dans le monde, parfois on oublie juste de regarder vers l'intérieur et faire le chemin. Mais une source de cyclicité énorme, enfin il y en a plusieurs, mais une grande source de cyclicité qui est justement la nature de cette énergie féminine pour moi, c'est vraiment notre corps de femme, notre corps cyclique, comprendre notre cycle hormonal, notre cycle avec les règles, pouvoir sentir les énergies qui nous traversent à ce moment-là. Parce que en fait, la question, c'est que pour les femmes, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas été élevées, éduquées pour être en connexion avec cette énergie féminine, on vit dans une énergie masculine qui est, on va dire, tout le temps dans la même direction, qui va vers un objectif, qui est plate, on va dire, d'une certaine façon. Et sauf que dans la nature, en fait, tout ça, c'est cyclique, justement. C'est ce côté plat, il n'y a rien qui bouge, ça n'existe pas autant pour nos émotions que pour notre corps. Donc déjà, c'est reconnecter à son corps. Et pour ça, le cycle féminin, c'est à mon avis l'outil qui nous guide, en fait. C'est une guidance à elle seule. Ensuite, il y a vraiment, pour moi, ce qui a beaucoup marché aussi, c'est me reconnecter au cycle de la lune. Donc parfois, on peut se reconnecter aux deux, mais aussi on peut le faire séparément si au départ, c'est pas forcément aligné. Mais moi, me reconnecter à la lune, ça m'a donné aussi ce côté très très poétique dans le cycle, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes énergies, des énergies qui vont être dans l'énergie féminine qui donne, parce que l'énergie féminine a aussi plusieurs visages et plusieurs facettes. Il y a une énergie où elle donne, elle est en expansion, elle est en partage de son énergie, de son amour, de sa lumière, de tout ce qu'elle a. Et il y a des phases du cycle où l'énergie féminine, elle fait retour, elle est à l'intérieur, elle se permet aussi de mourir d'une certaine façon, symboliquement, qui se permet de connecter avec des parties qu'on appelle traditionnellement des parties sombres, des parties obscures. Parce que l'énergie féminine a aussi cette capacité à plonger très profondément là où on n'a pas forcément toujours envie de plonger. C'est le même, on va dire, le cycle de la lune et le cycle féminin portent des énergies qui sont très compatibles, qui sont très alignées, en fait. Donc, ou l'un ou l'autre. Et ça, qu'on soit même si on est en ville, de temps en temps on peut voir la lune, ou on peut savoir où elle est, on peut la chercher. Voilà, tu vois, pour moi c'est tout un défi là, après 2 ans, 2 ans et demi à voyager, à être dans des endroits très nature, justement, dans la jungle, où voilà, j'étais à Bali, j'étais au Guatemala pendant un an à côté d'un grand lac. Là, je me retrouve à Paris, tout d'un coup, et ma femme sauvage, elle meurt de faim. Elle est vraiment, tu vois, et il y a quand même, voilà, il y a beaucoup, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'observations quand même à faire. C'est juste qu'il y a tellement de béton et des choses qui, ça prend toute notre énergie, mais il y a quand même, la nature, elle est quand même là, en fait, là, et on le voit, je pense qu'on l'a vu avec les différents confinements, dès que l'humain se retire un peu, la nature reprend ses droits. Donc, en fait, la nature, elle est toujours là. J'ai juste un arbre en face de ma fenêtre, tu vois, et je le vois évoluer, je vois les pigeons. Bon, c'est des pigeons, c'est pas plus poétique, mais les pigeons qui viennent, qui font des choses. Et de la même manière, dès que je peux aller un petit peu dans un parc, poser mes pieds par terre pour ressentir vraiment cette nature, me poser près de l'eau, même si c'est la Seine, d'observer l'eau, il y a vraiment, voilà, une observation des cycles, du ciel, juste de qu'est-ce qui se passe dans la nature à ce moment-là qu'on peut faire. Mais sinon, voilà, allez, creuser à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Et un autre outil qui m'a énormément aidé, c'est aussi la connexion avec des archétypes, en fait, des archétypes féminins qui permettent justement. Parce qu'un archétype, c'est quoi? C'est comme un modèle, c'est quelque chose, moi j'aime bien parfois dire une sorte de patron énergétique, comme on a un patron pour faire de la couture, on a la même chose énergétique, où il y a on n'a pas besoin en fait de tout savoir, il y a dans notre inconscient collectif des images, des mots, des énergies qui sont associées à un type de d'énergie, n'est-ce pas? Donc on va dire par exemple, tu vois, l'énergie de la sorcière, c'est un archétype, et dans un mot il y a plein d'énergie, il y a un univers entier qui est là-dedans. Et moi, cette connexion aux archétypes féminins, qui peut être, voilà, la sorcière, la déesse, d'ailleurs sorcière ou prêtresse, pour les personnes qui se sentent pas à l'aise avec la sorcière, même si, voilà, ça fait partie aussi, je pense, du parcours de la femme, d'aller apprivoiser ce côté sorcière, donc ce côté un peu obscur aussi. Mais sinon, voilà, l'archétype de Vénus, justement, la déesse, c'est hyper intéressant pour connecter avec la sexualité, sensualité, l'archétype de la mère, l'archétype de la guerrière. C'est vraiment, voilà, des archétypes qui nous permettent, je pense, d'explorer le féminin avec, voilà, différentes facettes, différentes énergies, et pouvoir parfois comme mettre un costume, de dire, voilà, aujourd'hui je vais incarner la déesse, dans lequel on se sent en sécurité parce qu'on sait que c'est un costume. On n'est pas en train de dire, à partir de maintenant, par exemple, parce que ça peut être un blocage pour beaucoup de femmes, de dire, ah oui, à partir de maintenant, je suis une femme spirituelle ou je suis une femme sensuelle. Quand on n'a pas du tout pratiqué, quand on n'a pas du tout été éduqué ou à l'aise avec ces genres de choses, c'est difficile et on ne va pas demander à quelqu'un de tout de suite se sentir comme une déesse. Mais cette énergie-là, on peut l'apprivoiser petit à petit en nous connectant à un archétype d'une certaine déesse ou de Vénus, quelque chose qui va vraiment nous mettre dans cette énergie-là, tout en sachant que, voilà, c'est une énergie qu'on emprunte et qu'on peut rendre pour nous retrouver, nous. Mais à chaque fois, en fait, ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'on met ce costume, quand on l'enlève, on garde quand même un peu de ça. Puis on garde un peu d'Aphrodite, on garde un peu de la sorcière, on garde quelque chose de cette énergie-là en nous. Donc voilà, moi, la connexion avec les archétypes, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément parlé. Même la femme sauvage, tu vois, pour moi, c'est un archétype et c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est l'archétype qui me parle le plus et qui regroupe plein de choses. C'est aussi la femme chamane. C'est l'archétype que je revendique. Aussi pour me connecter à lui, pas forcément parce que je pense que j'ai tout compris et que ça y est, moi je suis une femme sauvage, c'est parce que ça me tient à cœur d'être toujours connectée à cet archétype-là que j'ai envie de l'afficher quelque part.
D'accord, oui, c'est comme si finalement c'était des parts de nous-mêmes sans qu'à chaque fois ce soit nous dans notre entièreté. Il y a toujours quelque chose au milieu et après on va un peu jouer avec en fonction de la scène, du contexte. D'accord. Et justement, donc ces archétypes peuvent féminins, est-ce que c'est féminin d'un point de vue genré ou c'est féminin d'un point de vue énergétique? Est-ce que les hommes ont également un pôle féminin, mais est-ce qu'ils peuvent correspondre à ce type d'archétype? Et nous, est-ce qu'on pourrait correspondre aussi à des archétypes masculins en tant que femmes?
Alors, oui, pour moi, c'est plus énergétique que genré, c'est-à-dire que on a tous, femmes et hommes, en nous une énergie féminine, une énergie masculine. Moi, dans les quatre archétypes que j'utilise d'ailleurs pour travailler généralement avec l'énergie féminine, qui sont, je profite de le dire pour si certaines personnes sont intéressées, j'ai un programme qui s'appelle Sagesse féminine, éveiller ta sagesse féminine, où je parle justement de ces archétypes-là. Et en fait, dans ces archétypes-là, il y a déjà certains qui vont plus être connectés à l'énergie masculine, comme la guerrière. La guerrière, c'est la femme qui prend le costume de l'énergie masculine. Et ces mêmes archétypes, en fait, ils existent aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a la même énergie derrière. Qui va plus être dans le roi ou le guerrier ou d'autres types de personnages, mais il y a les mêmes énergies. Donc pour moi, nous en tant que femmes et les hommes, on a tous énergie féminine et masculine, d'ailleurs à équilibrer, parce que généralement c'est pas un équilibre. La question, c'est que on est dans une société patriarcale où l'énergie masculine a été mise sur un piédestal, où c'est celle qui est valorisée. Donc les hommes, d'ailleurs, ils en souffrent aussi, mais on va dire que nous, les femmes, on est complètement déconnectées de l'énergie féminine. Donc et pour les hommes et pour les femmes, moi, pour équilibrer ces deux énergies-là, je conseille toujours d'aller d'abord travailler sur le féminin, parce qu'en fait, le féminin, c'est vraiment cette énergie qui va nous permettre de contacter avec la douceur, avec, tu vois, le sentiment de sécurité, d'être à la maison, de pouvoir nous relaxer. Et quand on relaxe un peu notre corps, quand on va dans ces espaces de sécurité, le masculin qui est hyper tendu chez tout le monde, chez moi, chez toi, chez tous les hommes aussi, parce que c'est un masculin qui est surexigé depuis des siècles, ce masculin-là, il peut aussi un tout petit peu se calmer, se déposer, commencer à agir différemment. Parce que moi, ce dont je me suis rendu compte dans mon parcours, c'est qu'en fait, j'avais pas tellement un problème avec mon énergie féminine, j'avais un problème avec mon énergie masculine, qui était une sorte de tyran très méchant, en fait, qui me poussait à être tout le temps dans l'action, il était surexigé, il était dans la compétition, il était dans l'ambition, et en fait, celle qui souffrait le plus, c'était moi, en fait. Tu vois, parce qu'il était vraiment très... ça fait un peu bizarre de parler de nous, hein, en prenant une partie comme ça de nous, mais c'est très instructif aussi de séparer ces parties de nous. Et une fois que j'ai réussi à contacter avec cette énergie féminine et à faire comprendre à ce masculin à moi que c'était OK, qu'il pouvait se déposer, qu'il pouvait être tranquille, qu'il pouvait se recharger avant de ressortir dans le monde... Waouh, il y a eu, je pense, la guérison, elle a d'abord été pour le féminin, mais in fine, elle était surtout pour le masculin, qui est cette énergie qui était la plus abusive chez moi, en fait, qui était vraiment en difficulté.
D'accord. Donc, si on s'occupe de son énergie féminine, si on en prend soin, au final, l'énergie masculine va, je ne sais pas si c'est un rapport de résonance, mais va également s'équilibrer, c'est ça? Ça va avoir un impact subtil sur le masculin également?
Ouais, je pense que même plus que subtil, en fait, c'est, et puis, tu vois, comme cette question du masculin m'a beaucoup intéressée, j'ai aussi fait beaucoup de recherches, je regardais, et dans toutes les femmes qui travaillent sur le féminin sacré, enfin, les spécialistes que j'ai pu voir ou étudier, elles disent toutes qu'en fait, le chemin pour guérir le masculin passe d'abord par le féminin. Ah, donc, okay. Ce qui veut dire aussi sur le boulot qu'on a à faire aussi avec les hommes, parce que autant pour nous maintenant ça devient un peu quelque chose de plus, même si on est très loin que ça soit quelque chose de complètement massif, mais pour les femmes ça devient maintenant quelque chose où on a conscience qu'il y a un féminin, on a conscience que notre féminin a été blessé, on a conscience qu'on peut aller faire tout ce travail de guérison, de nettoyage, de reconnexion, mais encore faut-il amener les hommes aussi à reconnecter à leur féminin. Et ça, Il y en a certains qui arrivent très bien, il y en a certains qui ont très très peur aussi. Et parfois, nous-mêmes en tant que femmes, enfin, pour l'avoir vécu et avoir aussi essayé d'initier d'une certaine façon un homme, j'étais pas encore capable non plus de le faire. Parce qu'il faut vraiment nous-mêmes être très très ancrés et dans notre féminin et dans notre masculin pour pouvoir faire ressentir cette confiance à l'homme pour qu'il puisse venir connecter avec ça. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, oui, donc je pense que ça, c'est un travail en étape. Et d'abord, c'est le féminin. Et ensuite, arrive cette guérison du masculin.
J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui se crée progressivement autour de l'archétype, du coup, des sorcières. Puisque donc, tu as créé l'école des sorcières. Il y a Odile Chabriac aussi qui a sorti des livres. Cet archétype, j'ai l'impression qu'il commence à émerger. Dans la société occidentale, en tout cas en France, pour toi, qui est la sorcière des temps modernes? Que se cache-t-il derrière cette sorcière à notre époque actuelle?
Ouais, c'est surtout l'essai de Mona Chollet, sorcière, la puissance des femmes qui a le plus été, je pense, je sais pas, qui a porté vraiment ce coup de « allez, on y va ». Mais la sorcière, c'est un archétype qui était déjà utilisé par les féministes dans les années 60, 70. Donc, c'est pas tout nouveau, mais c'est vrai qu'il y a une résurgence. En ce moment-là, il y a de nouveau les sorcières. Avec, je pense, dans le féminisme un peu avant, il y avait ce côté plutôt la sorcière comme une icône de rébellion. On est les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler un petit peu, ou que vous avez brûlé, je ne sais plus comment est la phrase exacte, mais il y a ce côté on se revendique différente. Et dans l'essai de Mona Chollet, justement, elle raconte comment ce qu'on a catalogué des sorcières, et finalement les femmes qui ont été poursuivies, c'était souvent des femmes qui avaient une connexion avec la nature, avec la médecine, on va dire, des plantes différentes, des femmes qui étaient veuves, des femmes qui étaient juste célibataires, en fait, qui voulaient juste pas être en couple, donc des femmes indépendantes. Donc on a compris aussi que, il y a énormément de femmes qui ont subi cette violence et cette massacre, pardon, à cause de justement les préjugés de l'époque et le patriarcat hyper dominant de cette époque-là. Et aujourd'hui, les sorcières modernes, je vois encore un peu ces deux choses, c'est-à-dire je vois un côté très féministe encore de certaines personnes qui sont dans ce mouvement, mais c'est vrai que je pense l'archétype s'est beaucoup plus adouci, j'ai l'impression, et le mouvement va plus vers la sorcière comme l'être qui va se connecter à sa magie. De plus en plus, je sens quelque chose comme ça. Tu vois, la sorcière du point de vue spirituel, plus que social. Comme avant, c'était un peu la sorcière comme cet archétype de paria, de la femme qui était différente. Et maintenant, c'est ce que je vois dans les livres, dans les formations, même d'ailleurs à l'école des sorcières que j'ai créée, qu'on anime avec plusieurs profs, il y a ce côté, c'est la sorcière dans le sens où cette femme qui a un lien avec l'invisible. Donc, c'est quelque part la spiritualité féminine. C'est en tant que sorcière, non seulement il y a le pouvoir de la nature auquel je peux me connecter, mais aussi le pouvoir des esprits. Les esprits de la nature ou les esprits tout court que je vais invoquer pour des rituels et compagnie. Alors, nous, dans l'école de sorcières, on va pas vraiment aussi loin dans la magie, je veux dire, parce que c'est mon avis personnel. Mais je pense aussi que parfois ça va un peu loin dans le sens où on confond un peu le moyen et l'objectif. On va, mettre beaucoup, beaucoup d'importance dans des détails sur comment faire le rituel, sur quelle couleur, la bougie, quelle invocation. On va mettre des choses comme ça, alors que l'objectif d'un rituel, c'est d'abord de sacraliser un espace, un moment, et de poser une attention, et de venir mettre notre attention sur cette intention. Donc là, c'est l'objectif, tu vois, c'est le fond de quelque chose, se faire la magie, on fait à l'extérieur quelque chose qu'on veut qui se produise à l'intérieur. Et donc du coup, nous, on rentre pas trop dans la bougie, il faut qu'elle soit violette ou jaune pour telle ou telle chose, mais on va vraiment, c'est surtout venez connecter avec votre âme de sorcière, c'est-à-dire avec votre propre lien unique et originelle au monde invisible, parce que chacune a son propre lien. Il y a des femmes qui se sentent accompagnées par des anges, il y a des femmes qui se sentent accompagnées par des guides, il y a des femmes, moi je sais plus les étoiles, ça va être plus l'univers, il y a d'autres personnes pour qui c'est Dieu, il y a d'autres personnes qui vont sentir quelque chose comme de l'univers, l'énergie cosmique, il y en a énormément pour qui c'est la déesse, une sorte de mère aimante cosmique qui est là pour tout le monde. Donc il y a plein de visages, des facettes pour la divinité, et la question pour nous avec c'est de vraiment dire ouais, quel est toi ton rapport à cette divinité et comment tu le vis à l'intérieur de toi. Et qu'il y ait des bougies, des chaudrons, tout ça, c'est accessoire en fait. Le plus important, c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi.
D'accord. Et cette vibration justement qu'on émet, est-ce qu'elle nous lie au féminin justement, ou est-ce que en ayant un meilleur rapport à soi, à son féminin, qu'on peut s'ouvrir aussi à d'autres formes d'énergie invisible?
C'est une question compliquée, je pense, à répondre. Je pense que tout le monde ne serait pas forcément du même avis, parce qu'évidemment, on a tous et toutes une connexion, enfin une capacité à nous connecter à la divinité et aux énergies. Mais effectivement, si on devait un peu schématiser, et de la même manière qu'on a dit que toutes les hommes et toutes les femmes, on a cette énergie féminine et masculine, oui, moi je pense que l'énergie féminine est la plus, puisque c'est l'énergie aussi qui va être dans le ressenti, c'est elle qui peut nous guider aussi pour nous connecter à notre capacité justement à ressentir les énergies. Notre guide pour aller connecter avec l'ombre, tu vois, et aller faire ce travail de descendre un petit peu dans la profondeur, dans l'obscurité, de voir aussi tous les, on va dire, peut-être les traumas qu'on peut avoir, de voir notre part d'ombre. Donc, ça, c'est plus de l'énergie féminine, là où l'énergie masculine, au contraire, va, je pense, nous aider à connecter plus avec la conscience, avec plutôt le côté un peu solaire, le côté un peu briller, donner aussi, être dans le monde, une certaine présence, tu vois. Mais les deux, enfin, on a besoin des deux et on a tous les deux. Donc, c'est vraiment pas l'une est meilleure que l'autre. Elles sont juste des qualités différentes. Comme moi, j'aime bien dire aussi, tu vois, en astrologie, le cancer n'est pas meilleur que le lion n'est pas meilleur que le cancer. C'est juste des énergies différentes avec des énergies hautes qui vont être différentes et des chutes, des énergies basses qui vont être aussi des travers qui vont être différents pour l'une et pour l'autre.
Du coup, d'après ce que je comprends, on est tous et toutes capables de se relier à ces énergies. C'est, voilà, c'est pas un don ou... Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Est-ce que c'est à développer? Est-ce que c'est tous en nous déjà, ici? Et est-ce que c'est à nous de le faire éclore?
Je pense que c'est déjà en nous, que c'est chez tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui le ressentir va être beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va être presque de l'ordre de l'impossible. On sait dire non, je sens rien, je ne peux pas. Et il y a plein de blocages qui vont sortir. Et je ne sais pas s'il faut le développer ou pas. Moi, je ne suis pas... d'avis de dire que tout le monde doit sentir quelque chose, que tout le monde doit s'intéresser à quelque chose. Je pense que c'est un appel quand, et je pense qu'on est aussi, mais là je mets un peu d'astrologie là-dedans, on est dans un moment où il y a un grand changement de conscience, surtout cette année 2021, ça va très vite, et voilà, je vois des jeunes, je disais comme toi, personnes qui lance, voilà, à communiquer, à comprendre des choses que peut-être d'autres générations n'avaient pas compris aussi tôt. Et dans ces changements de conscience, il y a vraiment ce côté de passer juste de la sphère matérielle à la sphère spirituelle, de comprendre. On est dans une réalité globale où tout le monde n'est pas du tout à l'aise avec le fait qu'il y a autre chose à part la matière. Il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment dans ce monde où oui, peut-être que Dieu existe ou pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, je dois travailler, me nourrir et compagnie. Et c'est ok, on a besoin de ça aussi, on vit dans un monde incarné, matériel et compagnie. Mais il y a vraiment un changement de conscience pour aller voir ce qui est au-delà de la matière. Et donc, du coup, d'aller ressentir les énergies, et etc. Même si il y a aussi beaucoup de dérives, même si on part aussi certaines, voilà, certaines personnes, comme ça fait quand même depuis des années que ces chemins s'ouvrent, il y a des personnes qui partent très loin dans l'énergie et qui peuvent faire peur à d'autres. Aussi, ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai vachement entendu ces dernières semaines, ces derniers jours.
D'accord.
Sur ces côtés, des personnes, par exemple, de ma communauté, qui vont dire, mais en fait, je ne peux pas écouter des personnes qui parlent de, je ne sais pas, il n'y a vraiment pas de jugement, mais juste pour attirer l'attention sur le fait qu'il peut y avoir un peu une cassure qui s'est faite avec des personnes qui parlent de physique quantique et des trucs énergétiques et je sais pas, des intergalactiques et des choses un peu qui peuvent paraître loin pour certaines personnes et qui peuvent leur faire peur. Donc, je pense que là, on est en train de voir qu'il y a un peu comme deux vitesses. Il y a les gens qui se sont lancés à fond dans cette découverte, on va dire, de ce nouveau monde un peu au-delà du matériel, de l'énergétique et qui... Peut-être elles ont foncé, ils sont allés très vite. Et d'autres personnes qui se rapprochent. Mais du coup, là, il y a un gap, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Les personnes qui sont déjà très au fait de certaines choses, il faut qu'elles... Si elles ont envie de transmettre, il faut aussi se mettre au niveau de celles qui commencent pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas une question de dire, ah bah, ici, il y a plein de choses différentes que tu ne comprends pas, mais un jour, tu comprendras si tu ouvres tes chakras et compagnie.
Oui.
Tu... ça peut être très dur, ça peut être très culpabilisant. Donc, faire attention. Voilà, et c'est pour ça que je dis, pour moi, il n'y a pas, oui, on devrait toutes se connecter, mais je pense que ça fait partie de notre évolution. Donc, je pense qu'on y vient à un moment ou à un autre. Que d'ailleurs, on le ressent à l'intérieur de nous. Ça peut être un appel, ça peut être quelque chose que... tout d'un coup nous semble évident. Et puis voilà, et puis être dans le fait de le découvrir pas soi-même, ça permet aussi d'être autonome, tu vois, et justement de ne pas dépendre des personnes qui vont être là à... parce que je pense qu'on a tous la capacité d'entendre des messages, de canaliser des choses, tu vois, de savoir certaines choses. Et si on arrive de plus en plus à le sentir, nous, on est moins dépendant de les personnes qui disent, qui canalisent, qui font des... Il y a quelque chose comme ça, voilà. C'est pas une question forcément facile à répondre, mais pour aller au basique, je pense que oui, c'est tout est à l'intérieur de nous. Et on le développe au rythme que l'on peut. Il y a parfois aussi, et ça je tiens à le dire parce que ça peut parfois être culpabilisant, parce que parfois il y a des personnes qui veulent développer des dons ou qui veulent se ressentir des énergies et pour qui ça ne s'ouvre pas complètement ou facilement. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci là-dedans, il n'y a pas un problème. Déjà, on sait que voilà, quand on veut trop quelque chose, généralement cette chose qu'on veut s'éloigne. Donc, il faut faire attention aussi, tu vois, dans l'état d'esprit dans lequel on approche ces genres de pratiques. Et ensuite, il y a des moments, en fait. Il y a des moments où on est prête à recevoir. Et je pense que l'idéal, c'est de développer cette connexion énergétique ou ces capacités avec un certain lâcher-prise, avec une certaine acceptation de... Ça viendra quand ça doit venir et je n'ai rien, j'ai pas à courir derrière un résultat. Parce qu'encore une fois, ça c'est pas non plus dans l'énergie féminine, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas un truc à attendre. C'est juste à m'ouvrir. Et en fait, c'est ça le problème. Enfin, le problème. C'est ça le secret, c'est que il y a juste à s'ouvrir. Et c'est ça le plus difficile. Donc quand on poursuit quelque chose, on n'est pas en train de s'ouvrir, on est en train de se fermer et d'aller dans une direction. Ce qui est très bien pour faire des projets. Mais pour ressentir les énergies, on a juste besoin de se poser et réussir à, voilà, à se poser dans cette énergie féminine de sécurité, de confiance, d'ouverture. Et ça, c'est un peu très difficile.
C'est vrai, c'est vrai. Ça demande de la patience et justement de mettre un peu de côté le diktat de l'action et du résultat immédiat pour laisser un peu le flow et les choses se passaient en nous sans que l'on ait de pouvoir décisionnel dessus. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, donc le nom du podcast est Nouvelle Conscience. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'éveille pour toi cette nouvelle conscience ?
Cette nouvelle conscience, j'ai envie de te dire, tous les ans, je fais une masterclass sur les énergies de l'année. Et pour l'année 2021, je l'ai appelée Nouvelle ère, nouvelle conscience.
Ah, c'est
tu vois, parce que je sentais par les énergies et l'analyse. Ouais, on a, en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'à 2020, on a vraiment vécu un moment que j'aime bien appeler un moment très plutonien. C'est-à-dire qu'on était dans cette énergie de Pluton qui est très destruction, tu vois, et on a plongé, on a vu une partie de notre système tomber, se détruire, se déconstruire, et même à l'intérieur de nous, nos piliers, à l'extérieur de notre vie, à l'intérieur, nos piliers se casser et devoir faire un travail un petit peu de, voilà, de plonger justement. Dans une exploration intérieure qu'on avait, que certaines personnes n'avaient peut-être jamais fait de leur vie. Et en 2021, on est plus sur une énergie qui va être plus, on va dire, dont le protagoniste va être plutôt Uranus. Donc Uranus, c'est plutôt l'énergie de la foudre, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de changement. Et je sens ça, en fait, et c'est aussi une énergie d'une autre conscience. Et je sens vraiment qu'on est dans ce moment-là où il y a des choses qui sont en train de se réveiller, il y a une nouvelle conscience qui est en train de naître, à un rythme, mais vraiment accéléré, puissance 1000. J'ai vraiment cette impression-là. Et que ça soit parce que ça touche plus de gens ou que ça soit parce que les personnes que ça touche, bah, ça fait faire du bon assez impressionnant. C'est pas forcément confortable, c'est pas forcément facile, c'est voilà, c'est des choses difficiles, mais et cette nouvelle conscience pour moi. Bah, elle regroupe plein de choses. Une, c'est ça, c'est la découverte d'une autre réalité qui peut sortir juste de cette réalité matérielle et la découverte aussi de tout ce que l'on crée à travers la pensée. Tout ce que nos pensées et même nos mots, en fait, font créer. Donc, comment notre état d'esprit est en train de façonner la réalité que nous vivons aujourd'hui. Ça, on peut le lire, on peut l'avoir lu, tu vois, mais l'expérimenter, le savoir, c'est se voir soi-même en train de créer une réalité, voilà, c'est quelque chose de puissant quand on fait le constat à l'intérieur de nous du coup, en fait, il y a une énorme prise de responsabilité quand on se rend compte qu'on est créateur de notre réalité. Tout d'un coup, on dit waouh, tout ce que je suis en train de créer pour ma vie individuelle, mes amis, mon conjoint, ma famille, mon travail, mais en fait, tout ce qu'on est en train de créer pour le collectif. Et c'est là où, éventuellement, pour moi, c'est le plus fort de cette nouvelle conscience, c'est si on arrive à se rendre compte à quel point on est chacun et chacune responsable de là où on est arrivé aujourd'hui. Parce que on arrête de se positionner comme non, mais moi, j'en fais pas partie, ça, c'est les puissants de ce monde, c'est les grands de ce monde, ou c'est les personnes qui vont pas voter, ou c'est les personnes qui consomment ci, ou c'est les personnes qui font ça. Et en fait, prendre 100% de la responsabilité du système. Je lisais justement un post aujourd'hui qui disait, c'est dur en tant qu'être humain de porter toute la responsabilité du système sur nous. Oui, et c'est pas moi je porte 100% et les autres ne portent rien. C'est pas ça, c'est que chacun, en fait, on porte 100% de la responsabilité. Et c'est un constat qui est très dur. Et une fois qu'on fait ces constats, c'est très difficile à dire, ah oui, et maintenant, comment je change ça, en fait? Parce que déjà, qu'à mon niveau personnel, j'ai un peu de mal à changer, à être dans des amitiés alignées, avoir un travail qui me plaît et compagnie. Comment maintenant, à partir de ma pensée, à partir de mon système des valeurs, je change, ce que je vois à l'extérieur de moi. Donc, pour moi, c'est ça la nouvelle conscience, mais on est vraiment à un état embryonnaire, tu vois. On est vraiment au tout début des prises de conscience. Et je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais voilà. Et en espérant que cette nouvelle conscience donne naissance à une nouvelle terre, à un nouveau monde où, en fait, on est tous beaucoup plus conscients, justement, de notre responsabilité et on peut être dans nos relations beaucoup plus responsables, dans notre consommation beaucoup plus responsable dans nos systèmes en fait économiques, démocratiques, beaucoup plus ouais, 100% responsable en fait de ce qui se passe.
Oui, c'est ça, c'est notre responsabilité individuelle qui va progressivement se répandre sur notre voisin, le voisin d'après, comme dans, je sais pas si tu connais le théorème du centième singe. En gros, enfin, ça parle de ça, si tu veux, tu connais ou
Je
pas?
crois que je l'ai entendu, ouais. Mais vas-y, tu peux l'expliquer.
C'est une expérience qui a été faite, il me semble, sur une île en Indonésie et un singe va laver sa patate douce avant de la manger pour qu'elle devienne salée et donc qu'elle soit meilleure au goût. Et au fur et à mesure, donc il y a des singes par mimétisme qui vont faire la même chose. Et au final, les chercheurs qui ont procédé à cette expérience se sont rendus compte que toute l'île lavait sa patate douce avant de la manger. Donc, c'est-à-dire une pratique individuelle est finalement devenue collective, alors que les singes n'avaient pas forcément de lien physique entre eux. Donc, mais ils l'ont quand même tous fait. Donc, comment l'information s'est transmise, je ne sais pas si ça a été expliqué, mais en tout cas, voilà, c'était un fait qui avait eu cette nouvelle pratique de laver ses aliments avant de les manger pour qu'il y ait plus de goût. Donc, ça m'a fait penser à ça. Si on impulse un élan qui est bon pour nous, ce sera sûrement bon pour les autres. Après, on pourra l'expérimenter différemment, mais dans le fondement en tout cas.
Oui, c'est intéressant. Oui, j'avais même, dans ma tête, j'avais même l'impression qu'on avait retrouvé même des singes qui les faisaient dans une île voisine et qu'il n'y avait pas des liens entre eux. Et effectivement, de ce côté. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est... Ça fait partie aussi de cette nouvelle conscience de comprendre notre interdépendance, en fait. Donc, interdépendance, bien évidemment, matérielle, mais surtout notre interdépendance énergétique aussi. Donc, ouais, plus on s'éveille chacun, plus ça contribuera, je suppose, à un éveil collectif. En tout cas, on peut le...
Ben, j'y crois aussi, de tout mon cœur. Merci beaucoup, Luciana. C'était un plaisir.
Pour moi aussi, merci pour ton invitation et longue vie à ton podcast.
Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt.